Bienvenue aux portes du monde, Louisiane, Nouvelle-Orléans, épisode 1.
Bonjour à toutes et à tous, ici le studio 231 de l'INA. Bienvenue dans Aux portes du monde, l'émission qui vous fait découvrir les régions du monde que vous ne connaissez pas ou peu. Au micro, Clément Ancelin, je serai votre guide touristique pour cette émission. En France, nous baignons dans une culture occidentale, influencée notamment par les États-Unis. Mais nous avons un peu tendance à oublier les cultures plus différentes des nôtres. Nous avons pensé cette émission pour vous emmener découvrir ces cultures, leur histoire, leur patrimoine, mais aussi leur société. Alors embarquez avec nous pour partir à la découverte du patrimoine de l'humanité et des régions de ce vaste monde. Aujourd'hui, on prend l'avion direction la Louisiane. La Louisiane est un état du sud-est des États-Unis, entre le Texas et la Floride. Elle se situe à l'embouchure du Mississippi. Cette petite région est chargée d'histoire et de culture, mais c'est aussi un véritable berceau du mélange des cultures aux États-Unis, le melting pot. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Louisiane était française pendant les 17 et 18e siècles. La France, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne ont été parmi les premiers à fouler le sol louisianais vers les années 1680. Malheureusement, ils ne se sont pas contentés de visiter le coin et ont installé un point clé du commerce triangulaire esclavagiste. Par conséquent, les esclaves contraints de fuir l'Afrique ont imposé leur culture propre dans cette région. Malgré le fait que la France ait réussi à en garder le contrôle après différentes guerres avec les Espagnols, Napoléon l'a vendue en 1803 aux États-Unis pour financer les batailles en Europe. La Louisiane a donc, vous l'aurez compris, une culture très intéressante, car c'est un territoire récent où le mélange de cultures ne s'est pas uniformisé. Tout lui vient de ses nombreuses influences. Vous avez peut-être déjà entendu le mot Cajun, que vous entendrez sûrement dans cette émission. Parmi ces premiers habitants de la Louisiane, on compte les Cadiens. Ce peuple vient du Canada, de la province d'Acadie. Après plusieurs déformations phonétiques, les Cadiens sont devenus des Cajuns. Aujourd'hui, ces deux termes sont employés pour évoquer la Louisiane, sa culture et ses habitants. À leur côté, nous retrouvons les descendants d'esclaves venus d'Afrique, les Haïtiens, les Créoles, notamment Africains et Antillais, mais aussi les Européens. Le multiculturalisme louisianais a une image forte dans la place de ceux qui ont déjà entendu parler de la Louisiane ou de la Nouvelle-Orléans. Cette image est-elle vraiment le reflet de la réalité? Dans quelle manière la Louisiane est-elle un reflet de la société américaine? Nous répondrons à ces questions grâce à nos invités. Pour vous emmener aux confins de la Nouvelle-Orléans, je suis bien accompagné grâce à Sarah Houplon et Adrien Davigny. Nous avions besoin d'yeux experts, donc nous avons le plaisir d'accueillir à nos côtés Cécile Vidal, historienne à l'EHESS, et Bertrand Dical, journaliste musical. Cécile Vidal, vous êtes donc historienne spécialisée dans l'histoire sociale du colonialisme et de l'esclavagisme des mondes atlantiques. Enseignante et directrice d'études, vous avez écrit de nombreux livres, notamment « Histoire de l'Amérique française » avec Gilles Avard, qui dépeint la Louisiane en tant que Nouvelle-France. Bertrand Dical, vous êtes journaliste, mais aussi directeur général du média numérique New Tank depuis bientôt 10 ans. Vous avez travaillé notamment pour Le Figaro, mais aussi sur plusieurs antennes du service public. Vous avez vous aussi écrit de nombreux livres, notamment « Ni noir ni blanche, histoire des musiques créoles », qui relatent la création de nombreux genres musicaux qui ont émergé de l'esclavagisme des populations créoles comme africaines. Cécile Vidal, Bertrand Dical, n'hésitez pas à intervenir tout au long de notre émission. Au sommaire de celle-ci, vous découvrirez les grandes lignes de l'histoire et la culture louisianaise avec Adrien Davigny. Nous viendrons à votre rencontre pour connaître ce que vous savez de la Nouvelle-Orléans. Puis, vous en saurez un peu plus sur le vaudou et Sarah Houplon s'entretiendra avec nos invités. Tout au long de l'émission, vous pourrez sûrement reconnaître quelques-unes des musiques de Charlie Couture. Sans plus tarder, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue aux portes du monde, en Louisiane.
Ces derniers temps, une vidéo diffusée par la Maison Blanche a beaucoup fait parler. On y voyait des agents de l'ICE, la police américaine de l'immigration, mise en scène comme dans un clip sur une musique populaire. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit de la musique emblématique pour les fans de Pokémon. En effet, on ne parle de là de Catch Them All. Une musique officielle pensée pour montrer de la fermeté, de l'ordre, du contrôle, mais pour beaucoup, elle a surtout laissé une impression de froideur, presque une déconnexion avec l'histoire réelle du pays. Et c'est là que la contradiction apparaît. Parce que s'il existe un endroit aux États-Unis qui raconte bien une histoire de l'immigration, du déplacement des peuples, des métissages culturels, c'est bien la Louisiane. Elle n'est pas née des frontières figées ou d'identité fermée. Elle est née du mouvement, des arrivées successives, des mélanges, des rencontres parfois imposées, parfois choisies, souvent douloureuses, mais qui ont façonné une culture profondément humaine et plurielle. Avant d'être un État dans la sud des États-Unis, entre le Mississippi et le Texas, la Louisiane a été française puis espagnole. Des colons européens s'y sont installés, apportant leur langue, leurs coutumes, leur architecture. Puis sont arrivés des Africains, réduits en esclavage, dont les cultures, les rythmes, les croyances ont profondément marqué la région. Plus tard, des populations caribéennes, notamment avec la révolution haïtienne, ont trouvé refuge à la Nouvelle-Orléans. Et au XVIIIe siècle, les Acadiens expulsés du Canada, ceux que l'on appelle aujourd'hui les Cajuns, ont eux aussi été déplacés, contraints de reconstruire une vie ailleurs à cause de l'événement que l'on appelle le Grand Dérangement. Ce territoire, vaste de 135 000 km², c'est-à-dire plus de 4 fois la Belgique, abrite une cohabitation de cultures qui n'est pas pour autant une utopie d'égalité. Cécile Vidal, vous nous en parlerez certainement, mais la Louisiane était un état esclavagiste, notamment avec des plantations de coton et de canne à sucre, communément appelées à l'époque l'or blanc. C'est d'ailleurs en Louisiane qu'a eu lieu l'une des plus grandes révoltes d'esclaves des États-Unis. Cet état sudiste a vu dans un mouvement révolutionnaire noir entamé à Saint-Domingue en 1791. Ces esclaves se soulevaient le 8 janvier 1811. Cette révolte organisée sera réprimée dans le sang, la violence et la justice. Je vous parle bien de justice entre guillemets, car les esclaves ont été par la suite jugés par des jurys composés en grande partie de propriétaires de plantations et d'esclaves. Autrement dit, l'histoire de la Louisiane est une histoire de personnes déplacées, de populations contraintes de traverser des frontières, de communautés qui ont dû s'adapter pour survivre. C'est aussi ce qui a permis le développement d'autant de langues. Notre invité, Bertrand Dical, l'aborde d'ailleurs dans son livre « Ni noir ni blanche, histoire des musiques créoles ». En effet, l'anglais n'est pas la seule langue parlée en Louisiane. Il existe plusieurs créoles parlées, que ce soit un créole venant des Caraïbes, le Cajun, qui se différencie du français des maîtres car il était parlé dans les zones rurales et dans les bayous, c'est-à-dire là où vivaient les populations Cajun, étant séparé des maîtres. Le français s'est différencié du français en France car les maîtres étaient encore liés à la France grâce aux journaux, par exemple. Alors quand on parle d'une vidéo officielle qui réduit l'immigration à une question d'ordre, de contrôle et d'image, le contraste est saisissant, car la Louisiane nous rappelle une chose essentielle. Sans ces immigrations, sans ces brassages, cet État n'existerait tout simplement pas tel qu'il est aujourd'hui. Cependant, cette vidéo peut faire écho à un comportement récurrent aux États-Unis, qui est le rejet de l'autre. La séparation des « races », entre guillemets, que ce soit à travers les lois ségrégationnistes ou encore le fait que la Louisiane a été un État esclavagiste et aujourd'hui un État qui a voté Trump en 2028 avec 8 grands électeurs. La musique louisianaise est le témoin le plus éclatant du brassage multiculturel qui a forgé la Louisiane. Le jazz, né à la Nouvelle-Orléans, est le fruit d'influences africaines, européennes et américaines. Il est le mélange de plusieurs styles présents au début du XXe siècle aux États-Unis, qui sont le blues, les Negro Spirituals, le ragtime, et est joué dans les rues avec des fanfares là où les cuivres constituent le noyau principal de ce style, accompagnant de percussions ou d'un banjo. La musique cajun mêle racines françaises et traditions locales, rien n'y est pur, rien n'y est figé. C'est précisément ce qui en fait sa richesse. La cuisine raconte la même histoire. Chaque plat est un mélange comme le jambalaya. Ce plat commun, traditionnel, est lié au mélange d'influences historiques, multiculturelles, locales des cuisines amérindiennes, créoles, françaises et espagnoles. Chaque recette est une mémoire collective. Supprimer ou rejeter ses apports serait effacer l'âme même de la Louisiane. Alors oui, cette vidéo de la Maison Blanche peut sembler à première vue éloignée de notre sujet, mais en réalité, elle représente parfaitement le paradoxe de la culture louisianaise. Là où cette vidéo fait écho à une fermeture et à un rejet de l'étranger, la Louisiane, par rapport à son histoire, nous montre qu'elle est métissée, mais aussi ségrégée. C'est là où l'on parle de frontières. Elle parle aussi de rencontres de culture, là où l'on met en scène de la rigidité. Elle a su apprendre à répondre par la musique, la fête et la transmission. Aujourd'hui, on a donc choisi de prendre le contre-pied, de quitter les images froides et les messages simplifiés pour revenir à une histoire plus complexe, plus vraie, plus humaine, en découvrant cette région qu'est la Louisiane. Bienvenue en Louisiane, un territoire qui nous rappelle que la culture naît rarement de la fermeture, mais presque toujours du mélange.
Bonjour Adrien, merci pour cette chronique qui était très intéressante. Cécile Vidal, je vais juste rebondir sur la chronique d'Adrien. Dans votre livre « L'histoire de l'Amérique française », vous montrez que la Louisiane est faite de circulation, de métissage et de rapports de domination. Comment éviter aujourd'hui de transformer cette complexité en un récit soit idéalisé de la colonisation française, soit au contraire uniquement accusateur, sans en perdre la nuance historique ?
Alors, c'est une vaste question. Bonjour. Donc, on commence tout de suite par une question difficile. Je dirais tout d'abord qu'en tant qu'historien, notre travail n'est pas de juger les faits passés, mais de les établir, de les expliquer et de les interpréter. Donc on se situe bien au-delà, en fait, de débats moraux sur l'aspect positif ou négatif de la colonisation. C'est pas du tout notre démarche. En revanche, on peut montrer en effet que l'établissement d'une situation coloniale, de rapports asymétriques entre colonisateurs et colonisés, la création de sociétés esclavagistes qui reposent sur une des formes de domination les plus extrêmes, crée des sociétés qui fonctionnent sur un recours constant, en particulier dans les sociétés esclavagistes, à la violence. À une violence, à une très grande brutalité, à un système de terreur. Donc ça, c'est une question factuelle, en fait. Mais il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'établir les faits et d'expliquer pourquoi la traite s'est développée, pourquoi l'esclavage s'est développé, pourquoi des sociétés esclavagistes, pour se maintenir, ont recours à un tel système de violence.
Merci beaucoup Cécile Vidal. Je vais laisser la parole à Sarah qui va vous poser à vous deux, Cécile Vidal et Bertrand Dical, quelques questions autour de la chronique d'Adrien notamment.
Merci beaucoup Clément. Bonjour à vous deux. Bonjour Bertrand Dical. Bonjour Cécile Vidal. Je vais continuer tout d'abord avec vous Cécile Vidal. Au vu de la description de la Louisiane faite dans la chronique d'Adrien juste il y a quelques secondes, peut-on estimer que c'est un miroir des États-Unis ou plutôt une image opposée de ce pays, c'est-à-dire un immense melting pot culturel qui semble harmonieux mais où en réalité chaque culture vivrait plutôt séparément et où on vivrait dans la violence extrême?
Alors je répondrai en deux points. La notion de melting pot, c'est une notion qu'on a mise en avant à partir de la fin du 19e, début 20e siècle aux États-Unis, quand on a eu des très importantes vagues migratoires aux États-Unis. C'est dorénavant une notion qui a perdu un peu de son sens, plutôt que l'idée d'assimilation à une culture américaine homogène qui est impliquée dans la notion de melting pot. On met plutôt en avant actuellement aux États-Unis la notion de société multiculturelle, c'est-à-dire la coexistence de cultures différentes dans le respect et la tolérance, ce qui n'empêche pas une culture américaine commune, mais qui est faite de l'assemblage de ces différentes cultures. Et puis par ailleurs, quand on pense la Louisiane aux États-Unis, on a tendance à la présenter comme une société créole distinctive et on ne nommerait pas, on ne labelliserait pas de la même façon les autres sociétés esclavagistes ou post-esclavagistes états-uniennes, la Géorgie, la Virginie, le Mississippi, etc. Parce qu'on l'associe justement aux héritages des périodes françaises et espagnoles et on met en avant la notion de métissage, de brassage des cultures, comme si ces sociétés avaient échappé à la racialisation de l'esclavage qui s'est développé en leur sein. Et en fait, la mise en avant de la créolité de la Louisiane a été faite en grande partie pour marginaliser ce territoire. C'est un outil idéologique qui contribue, par exemple, à la manière dont la gestion de la catastrophe de l'ouragan Katrina, l'abandon de ces populations, ce qui s'est passé ensuite, explique en grande partie. Donc pour moi, ça contribue à la mythologie en fait, de la créolisation. Il y en a dans toutes les sociétés esclavagistes. En Louisiane, mais aussi en Géorgie, en Virginie. Et si on ne labellise que la Louisiane de cette manière-là, c'est pour des raisons justement d'intégration de ce territoire particulier. Mais pour moi, la Louisiane est assez représentative de ce qui se passe dans l'ensemble du territoire États-Unis, dans le sud des États-Unis. Et par exemple, la mise en place de la ségrégation, des lois ségrégatives après la guerre de ce qu'on appelle guerre de sécession ici, proviennent d'un procès lié à un conflit dans les transports en Louisiane. Ça montre bien que le territoire louisianais n'échappe pas à ce qui passe plus généralement aux États-Unis.
D'accord. Et donc maintenant, on sait qu'il y a eu des gros mouvements vers la Louisiane à travers l'histoire. Adrien nous en parlait. Pourquoi les Acadiens ou les Cajuns expulsés du Canada ont-ils choisi la Louisiane comme terre d'accueil? Est-ce que c'était la Louisiane spécifiquement ou d'autres terres?
Alors, je vais commencer par ne pas répondre à votre question en exposant très rapidement les différentes vagues migratoires, parce que vous insistez beaucoup sur les Cadiens, mais j'insisterai sur le fait que l'Amérique du Nord et la Louisiane en particulier, Louisiane, qui est en fait un immense territoire sur lequel la France prétend imposer sa souveraineté au XVIIIe siècle, entre les Grands Lacs, le Golfe du Mexique, les Appalaches et les Rocheuses. Il y avait d'abord des populations amérindiennes très nombreuses. Elles n'ont pas beaucoup été citées, mais elles sont très, très, très nombreuses et elles vont rester plus nombreuses que les Français jusqu'au départ des Français en 1768-69. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a différentes vagues migratoires francophones. Il y a d'abord des colons qui viennent de France au début du XVIIIe siècle. Puis, à la fin de la période française, dans les années 1750-60, au moment de la guerre de 7 ans, il y a en effet des Acadiens qui ont été déportés d'Acadie en 1755, Acadiens qui vont s'installer en fait dans l'ensemble du monde atlantique. On en trouve dans plein de territoires différents, en Amérique du Nord britannique, en France, dans les Antilles, en Guyane. Et donc, il y a une toute petite partie de ces Acadiens qui s'installent en Louisiane. Et puis, il y aura ensuite une vague migratoire provenant des réfugiés domingois. Au moment de la révolution haïtienne, les incendies du Cap, etc., vont provoquer une migration très importante de ces colons accompagnés de leurs esclaves, des libres de couleur, etc., dont une grande partie, 10 000, vont s'installer à la Nouvelle-Orléans en 1809. Et enfin, au cours du 19e siècle, alors que le territoire a été intégré aux États-Unis, on a une vague migratoire en provenance de France très importante. Alors, ces Français-là, on les appelle les Foreign French. Et du fait de ces vagues migratoires successives, la Louisiane va rester francophone jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc, les Acadiens, ceux qui s'installent en Louisiane, c'est une toute petite partie de la diaspora acadienne.
D'accord. Et vous parliez donc des Amérindiens qui étaient présents et qui sont restés. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé avec l'arrivée des colons et des différents peuples?
Alors, pendant la période française puis espagnole, avant que le territoire ne soit intégré aux États-Unis au début du 19e siècle, parce que les Français et les Espagnols dans la vallée du Mississippi étaient très très peu nombreux, à la fin de la période française, en 1768-69, il y a environ 10 000 colons et esclaves dans les établissements coloniaux français. Donc c'est rien, et cette population est moins importante que la plus importante population amérindienne, qui est celle des Choctaws, ce qu'on appelle les Choctaws en anglais. Et donc, à cause de ce déséquilibre démographique en défaveur des Français, à cause des rivalités avec les Britanniques qui s'avancent vers l'ouest depuis la côte est des États-Unis, les Français vont établir un système d'alliance avec les nations amérindiennes et vont plutôt avoir des relations apaisées avec les populations amérindiennes avec qui ils ont justement une sorte de politique diplomatique ouverte. Mais il y a des exceptions importantes. Les nations qu'on appelle les renards, les chicachas et surtout les natchez, avec qui ils seront en guerre et qui vont exterminer.
D'accord, ben merci beaucoup. Je me permets de passer à vous maintenant, Bertrand Dical. On sait maintenant, à présent, que la Louisiane est quand même une terre où il y a beaucoup de mélanges de cultures différentes. Quelle est la place de la musique dans ce mélange des cultures? Est-ce que c'est un moteur de mélange ou de partage ou une conséquence de ces mélanges?
Alors, quand on parle de mélange de cultures, on emploie presque un terme un peu impropre. C'est souvent un mélange de débris de cultures. Ce n'est pas une culture africaine, une culture amérindienne, une culture européenne parfaitement intacte, cohérente, qui est en jeu. C'est des débris de culture, c'est des souvenirs. Il ne faut pas oublier une chose, par exemple, qu'on oublie souvent quand on parle de l'esclavage états-unien, c'est que les États-Unis ont décidé officiellement de la fin de la traite et de l'importation d'esclaves en 1807, mais comme la décision avait été prise 20 ans plus tôt, les États-Unis ont une particularité, c'est qu'ils ont importé, permettez-moi l'expression, énormément d'esclaves femmes pour permettre en fait une augmentation entre guillemets naturelle de la population d'esclaves, ce qui explique la singularité d'une partie de l'esclavage américain, c'est-à-dire qu'entre la fin de la traite américaine et l'abolition à la fin de la guerre civile, de la guerre de sécession, le nombre d'esclaves a été multiplié par 6, uniquement, quasiment uniquement, il y avait un peu de contrebande d'esclaves, mais presque uniquement par croissance démographique. Et quand on parle de la musique, on ne doit pas oublier que l'esclavage pourrait être un crime contre l'humanité, pourrait être tout le temps perpétuellement confronté à des mouvements de résistance. C'est l'état, pardonnez-moi encore des guillemets, c'est l'état normal de la société. C'est même civilisationnel. Il y a une conviction absolue dans tout ce qui fonde ces sociétés que l'esclavage est juste et bon. Et donc, les échanges culturels, la fabrique de la culture se fait dans ce contexte-là. Et qui est un contexte parfois curieux, c'est-à-dire que la naissance du Negro Spiritual, qui a été très étudiée, elle est liée au Great Awakening, un mouvement religieux des premières décennies du 19e siècle, dans lequel des maîtres esclavagistes décident de la conversion de leurs esclaves vers le christianisme et vers un christianisme particulier qui, pour des raisons qui sont maintenant bien connues, bien exposées depuis fort longtemps, vont permettre la naissance du Negro Spiritual. Quant à la naissance des musiques récréatives, puisque quand on parle de la Nouvelle-Orléans, on a une vision du jazz, des fanfares, de quelque chose de festif, de cet extraordinaire carnaval de la Nouvelle-Orléans, on est dans une situation à la fois extrêmement normale, extrêmement humaine. Des humains, même dans le malheur, même dans la douleur, même dans la souffrance, ont envie simplement de faire la fête et de partager du plaisir. Ce qui est particulier aux sociétés esclavagistes, c'est que les personnes les plus opprimées, physiquement, socialement, économiquement, par la violence de la société et de la loi, le sont aussi culturellement. Donc elles vivent aussi dans la fascination de la culture de l'oppresseur. De même que l'oppresseur est lui-même assez facilement fasciné par une partie de la culture des personnes esclavagisées. À ça s'ajoute une complexité absolument incroyable et particulière de la Nouvelle-Orléans qui n'en fait pas un Éden. Je suis vraiment d'accord avec Cécile Vidal là-dessus. Il ne faut pas du tout croire que parce que les gens se mélangent, on est dans une fête quelque part dans le Paris bobo contemporain. Pas du tout. Il y a des populations qui sont déportées, qui ont échoué là, qui sont dans des situations historiquement difficiles. Mais ce n'est pas du tout un Éden de métissage, c'est une société d'une violence incroyable, mais un peu plus compliquée que dans d'autres terres d'esclavage.
Je me permets juste de vous couper, Adrien va revenir concernant la musique. On va juste écouter un petit extrait, c'est ça Adrien ?
C'est ça. Bertrand Dical, nous avons dit précédemment que vous aviez écrit un livre « Ni noir ni blanche, l'histoire des musiques créoles ». Nous avons décidé de composer un petit medley compilant plusieurs styles de musique que vous citez dans votre introduction. Je laisse les techniciens.
Don't you know I got a right to sing the blues? Listen at this. Look out. One, two.
Alors Bertrand, dans votre introduction, donc, vous citez ces différents styles et bien d'autres encore, mais, et vous les qualifiez de créoles, mais en quoi le sont-ils et surtout, qu'est-ce que le créole selon vous ?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question et des questions très disjointes. Si on a pris l'habitude, mais c'est une habitude qui vient à l'origine d'un travail des linguistes qui a été repris par beaucoup de musicologues et d'ethnomusicologues, l'idée des musiques créoles, de parler de musique créole au pluriel, a deux fonctions. D'une part, éviter des termes racialisants, comme impropre, comme parler de musique noire ou de musique métisse, ce qui racialise des questions culturelles qui souvent dépassent ces questions-là. Une musique créole, grosso modo, c'est une musique qui naît de la rencontre dans un tiers continent de débris de cultures européennes, africaines et d'ailleurs encore très souvent asiatiques, de plusieurs Asies, évidemment amérindiennes, et le fait que ces musiques naissent de l'esclavage. Il ne s'agit pas d'un métissage harmonieux entre populations qui ont décidé librement de vivre ensemble dans un même faubourg, non. C'est des débris de culture qui, dans une situation qui dure extrêmement longtemps. L'esclavage, c'est grosso modo l'esclavage occidental, la traite atlantique. Et dans l'océan Indien, c'est à peu près 3 siècles et demi. Et c'est tout un ensemble de musiques. Alors, il y en a certaines qui sont parfaitement évidentes, comme le tango, le reggae, le zouk, qui sont des musiques nées au fin 19e, début 20e, ou plus loin dans le 20e siècle, et qui sont des musiques évidemment créole. Et puis c'est tout un ensemble de musique. Il y a eu des longs débats sur le caractère créole ou pas du blues. Et finalement, il y a sinon un consensus absolu, du moins beaucoup de musicologues qui préfèrent cette vision du blues à une vision du blues qui serait une musique noire. Voilà. Mais créolisation, créolité, créole, c'est des mots qui viennent du travail des linguistes, si on les utilise en essayant d'avoir une vision un petit peu scientifique, mais qui est évidemment totalement impropre. C'est pour ça que moi, je préfère parfois, dans certaines circonstances, parler de musique née de l'esclavage. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair, et ça peut aussi inclure des musiques qui ne sont pas nécessairement, qui n'apparaissent pas aujourd'hui nécessairement comme l'expression propre aux esclaves.
Merci Bertrand Dical, on va tout de suite passer à un petit reportage. Je dois vous avouer que dans l'équipe, on est un petit peu curieux, donc on a voulu créer cette émission autour de la Louisiane, mais il est impensable de faire cette émission sans connaître l'avis général des gens sur la Louisiane. Est-ce que les gens pensent connaître la Louisiane ? Qu'est-ce qu'ils en connaissent ? Nous sommes partis donc en micro-trottoir avec notre équipe et voici ce que nous ont répondu les gens. Avez-vous déjà entendu parler de la Louisiane avant aujourd'hui ?
Oui, je crois que c'est en Nouvelle-Orléans, c'est ça ?
Un petit peu, mais vraiment très limite. Hein.
Oui, alors j'ai déjà entendu parler de la Louisiane et j'y suis allée 2 fois.
Est-ce que vous pensez bien connaître la Louisiane ?
La Louisiane, c'est un assez grand état qui est, dans mon souvenir, entre l'Alabama et le Texas, et qui est longé par le golfe du Mexique.
Vous pensez à quoi quand je vous parle de la Louisiane ?
Moi, je pense directement au bayou, parce que j'ai travaillé un petit peu sur les paysages du bayou, donc ça va être surtout ça, et la culture cajun.
Je crois que là-bas, ils ont beaucoup une culture musicale aussi, il me semble.
Le jazz ?
Princesse Tiana.
Un mec qui fait de la trompette, Louis Armstrong, ouais.
Est-ce que c'est un territoire qui vous fait rêver? Est-ce que vous aimeriez y voyager ou pas du tout?
Le Bayou, c'était vraiment un des paysages que je rêvais de voir. Voilà, ces grosses lagunes avec ces arbres, les alligators, c'était vraiment des choses que je rêvais de voir. Après, c'est un État où la population est assez pauvre. Donc voilà, en tant que Française et qu'Européenne, des fois, c'est des choses qui sont un peu dures à voir, de voir que c'est une population qui a totalement été laissée à l'abandon, encore plus après Katrina.
Y aller ou non, les États-Unis, ça me tente pas plus. Mais si on récupère au nom du Royaume de France, pourquoi pas?
Pensez-vous que la Louisiane est un État des États-Unis comme les autres?
Non, je pense pas. Je pense que déjà, chaque État est un peu différent au niveau de la culture.
J'aurais dit parce qu'il y a une prédominance noire. C'est peut-être pour ça que oui, c'est différent aussi.
Notamment la ville de la Nouvelle-Orléans, c'est très cosmopolite. Il y a beaucoup de musiciens et de musiciennes qui viennent du monde entier pour découvrir le jazz de la Nouvelle-Orléans. Et c'est vraiment quelque chose à part. Dans les rues, il y a de la musique dans toutes les rues de la Nouvelle-Orléans. Que ce soit des musiciens et des musiciennes de rue, que ce soit des concerts. Il y a vraiment un rapport à la musique très important.
Culturellement parlant, est-ce que vous pensez que la Louisiane, elle est assez proche de la France?
Mais je dirais qu'il y a une influence, vu que la France a colonisé là-bas. Donc il y a une certaine influence française, mais j'en ai vu peut-être qu'elle est moins présente aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais...
On le sent directement, en fait, qu'il y a la upper class qui va être blanche et la classe plus pauvre qui va être noire. Et on sait que c'est systémique, en fait, ce système aux États-Unis. Un peu plus loin, on sent que c'est quand même un territoire redneck. Il me semble que c'est un État aussi qui a voté Trump beaucoup. Nous, on a pu voir des panneaux dans les jardins qui incitaient à la haine raciale, concrètement. Donc, c'est quelque chose que nous, on n'a pas du tout l'habitude de voir en France. Mais là-bas, c'est normal de mettre un panneau dans son jardin en disant « je pourrais te tuer pour Trump ».
Alors, ce qui ne se voit pas forcément dans ce reportage, c'est que quand nous sommes venus vers les gens, il y a énormément de personnes qui ne connaissaient pas la Louisiane, pour qui c'était un territoire, ça leur évoque quelque chose. Ils savent que c'est aux États-Unis, mais ils n'en savent pas plus. Et après écoute de ce micro-trottoir, quand vous dites qu'il ne faut pas trop idéaliser cette région, qu'est-ce que vous pensez de l'avis des gens sur la Louisiane? On va commencer par vous, Cécile Vidal.
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par les gens. C'est un peu difficile de réagir parce qu'on a des avis sans savoir l'âge, le genre. Enfin, on reconnaît les voix de femmes, d'hommes, etc. Le milieu social, le niveau d'éducation, la possibilité de voyager ou non. Enfin, donc, je ne sais pas ce que sont les gens. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est des avis divers. Certains qui sont pas informés, d'autres informés, des gens qui sont allés sur place ou non, qui ont une expérience personnelle et puis qui ont une manière d'interpréter leur expérience personnelle différemment. Donc on voit de la mythologie, on voit des choses qui correspondent à la réalité actuelle également, en fait. Donc c'est plus divers que je n'imaginais que vous recueillerez.
Voilà. Et vous, Bertrand Dical,
c'est assez divers dans l'ignorance. Et ce qui est souvent intéressant dans ce genre d'exercice, c'est qu'on voit que surnagent des éléments, alors des alligators et du bayou, et du jazz et de la musique, et la violence des séparations et des haines raciales. D'une certaine façon, c'est tout à fait faux, et d'une autre manière, c'est assez rapidement vrai.
Qu'est-ce que vous entendez par « c'est tout à fait faux », par exemple?
Parce que je pense que très très souvent en France, on a une vision extraordinairement idéalisée de la Louisiane, notamment dans cette idée d'une espèce de melting pot harmonieux, et que le fait que ce soit une terre qui souvent elle-même se dit créole, qu'un certain nombre de spécialistes de la musique et de la langue disent créole, a l'air de quelque chose d'harmonieux. Juste une anecdote significative, il y a un gigantesque corpus à la Nouvelle-Orléans publier de langue créole, de textes écrits en langue créole, de chansons, de contes, de textes et même de textes d'actualité écrits en langue créole. Ça a été fait après la guerre de sécession dans un journal qui était vigoureusement pour le rétablissement de l'esclavage, vigoureusement pour la ségrégation, et ces textes en langue créole, sont là en langue créole pour mettre en scène l'arriération et le caractère sous-humain de la population noire. Et c'est pour ça que, et c'est grâce à ça que les linguistes disposent d'un corpus gigantesque de textes en langue créole.
D'accord, merci. Adrien, un mot ?
Oui, dans le reportage, donc, certaines personnes parlent d'une grande pauvreté en Louisiane. Et précédemment, Cécile Vidal, vous nous aviez parlé de l'ouragan Katrina. Est-ce que cela a un lien ? Est-ce que la pauvreté était-elle déjà présente avant ? Est-ce que l'ouragan a entraîné cette pauvreté ou a-t-il accentué même la pauvreté ?
Alors, la Louisiane est un des États les plus pauvres des États-Unis. Quand vous regardez tous les indicateurs, ils sont extrêmement mauvais en Louisiane. C'est à l'avant-dernière ou la dernière position, en fait. C'était une réalité avant l'ouragan Katrina qui a frappé la Louisiane en août 2005, donc il y a 20 ans. C'était les 20 ans de Katrina qu'on a cet été. Et ça a continué ensuite, en fait. Les choses ne se sont pas tant améliorées que ça en Louisiane. Donc, c'est un État qui, en effet, connaît des difficultés économiques, d'éducation. Et à l'heure actuelle, j'ai regardé hier, en fait, les inégalités ont plutôt tendance à se renforcer à l'heure actuelle.
Merci beaucoup. Sarah, il me semble que tu as des questions toi aussi. Je te laisse la parole.
J'en ai quelques-unes. Très rapidement, Bertrand Dical, nos auditeurs se demandent peut-être pourquoi, quand on évoque la Louisiane, on pense très très souvent à la musique en particulier, selon vous ?
Alors, ça tient d'une part aux stratégies institutionnelles de la Louisiane, qui a toujours insisté là-dessus, que ce soit les autorités, les offices de tourisme, les tours opérateurs, etc. Notamment avec nous, Français et Espagnols, qui sommes des cibles du tourisme en Louisiane, mais aussi parce que la Nouvelle-Orléans est le berceau du jazz. J'allais dire berceau du jazz, c'est en soi une marque déposée, et que à la Nouvelle-Orléans est née cette musique qui, aujourd'hui, pour les jeunes générations, n'apparaît plus comme une musique à ce point dominante, mais c'est certainement la musique qui, dans le monde culturel, a marqué le poids impérial des États-Unis. C'est-à-dire que le jazz, avant le rock'n'roll, et peut-être plus encore que le rock'n'roll, est une musique qui va changer les musiques populaires du monde entier. Et cette musique vient de la Nouvelle-Orléans.
Tout à fait. Donc, dans le micro-trottoir, en discutant avec les gens, et je crois que ça s'est entendu si je me souviens bien, une personne nous a parlé de La princesse et la grenouille. Dans ce film, le grand méchant pratique le vaudou, une activité, une pratique qui a été amené en Louisiane, notamment par les esclaves venus d'Afrique. Et je crois qu'Adrien, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette pratique.
Je ne sais pas pour vous, mais depuis tout petit, j'ai toujours aimé les films Disney. Je pense que mon préféré était La princesse et la grenouille, que ce soit pour ses musiques entraînantes, ses décors merveilleux, mais aussi pour ses personnages intrigants. Le docteur Facilier, allez savoir pourquoi, ce personnage m'a fasciné. Son allure, sa chanson et même sa magie. Je pense que c'est surtout son rapport aux esprits qui m'a marqué. Étant moi-même guadeloupéen, j'ai grandi avec cette fameuse magie, que l'on appelle le vaudou. J'étais petit la première fois que j'ai entendu parler du vaudou. Les autres enfants en parlaient comme de la sorcellerie, avec pour exemple des contes effrayants remplis de zombies, de poupées vaudou. M'interrogeant, je suis allé voir mon père qui m'a dit d'appeler ma grand-mère. Cette dernière m'a appris que le vaudou venait originellement du golfe du Bénin, des peuples Fon et Yoruba, du royaume du Congo et qu'il serait répandu dans les Caraïbes, en Amérique latine, mais aussi en Louisiane, à travers la traite négrière. Elle m'a aussi appris que le docteur Facilier, dont je vous parlais, avait été inspiré d'une figure iconique du vaudou, le Baron Samedi, le Loas de la mort. Mais que sont les Loas? Ce sont des esprits. Dans le vaudou, ce sont des divinités qui sont chacune associées à un élément, comme Ogun, qui est associé à la guerre, Mamiwata, à l'eau. Ces derniers sont organisés autour d'un dieu suprême, comparable au dieu créateur du christianisme. Ce dernier est appelé Maou. Cette ressemblance permettra à l'aboutissement d'une forme de syncrétisme dans les colonies, notamment en Louisiane et à Haïti, où Maou sera appelé Bondier, ce qui signifie en créole « Dieu ». Dans la même idée, les Loas sont associés à des saints catholiques ou par exemple le Loas Papaléba, qui est le messager, l'intermédiaire entre le monde des Loas et le monde des hommes, est associé à Saint Pierre qui détiendrait les clés du paradis dans les croyances catholiques. Cette association du catholicisme au vaudou permettait aux esclaves de conserver leurs croyances car il leur était interdit étant considéré comme de la magie noire. Cette image a été renforcée avec la révolution haïtienne qui aurait débuté sur une cérémonie vaudou. Un pacte de sang où un cochon noir a été sacrifié pour demander l'invulnérabilité des insurgés, mais vous pouvez vous demander qu'en est-il de la Louisiane ? En Louisiane, le vaudou est craint. Il est vu comme une religion d'esclaves, de noirs, d'où le terme magie noire d'ailleurs. Ces pratiques ont aussi été associées aux révoltes d'esclaves à la suite de la révolution haïtienne, comme dit précédemment. Ce sentiment étant renforcé avec le fort taux d'émigration haïtienne en Louisiane, ces populations immigrées sont principalement constituées de maîtres et leurs esclaves qui ont fui la guerre. Cependant, cette vision du vaudou va être bouleversée, notamment par une figure, Marie Laveau. Cette femme, née le 10 septembre 1801 et morte le 15 juin 1881, fille d'un créole blanc et d'une esclave noire affranchie, elle travaille en tant que coiffeuse à domicile chez les bourgeois blancs avant de recevoir les enseignements de Sanité Dédé et Marie Salopé pour ensuite devenir elle-même une prêtresse vaudou. Elle sera très reconnue et obtiendra même le titre de reine du vaudou, en contribuant notamment à l'association du vaudou au catholicisme autour du syncrétisme, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi à travers ses rituels qui mêlent les traditions vaudou et catholiques et locales. Cependant, ce n'est pas tout. Elle a été aussi une guérisseuse reconnue et une herboriste de renom. Le titre de reine du vaudou est un statut qui inspire le respect à la Nouvelle-Orléans, mais il est attribué à la prêtresse la plus reconnue. Ce surnom a été attribué à Marie Laveau. Cela montre à quel point elle a eu un impact sur le vaudou en Louisiane, le démocratisant. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Ne vous me prenez pas. Aujourd'hui encore, sa légende perdure à la Nouvelle-Orléans, où sa boutique existe toujours sous la forme d'un musée avec encore une boutique accessible dedans. Mais aussi car sa tombe est beaucoup visitée, bien que la plupart sont des touristes, cela montre bien à quel point elle a pu avoir un impact sur la région tout entière. De nombreux livres et de nombreuses musiques ont été écrites en son nom, comme la musique Marie Laveau de Papa Célestin, ou encore le livre A New Orleans Vaudou Priestess de The Legend of Marie Laveau de Long Caroline Moreau. J'ai décidé de traiter du vaudou dans cette chronique car selon moi c'est une religion qui a souvent été associée à de la magie noire, comme je l'ai dit donc, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a été faite par l'Église catholique dans l'idée de diaboliser donc cette religion car elle n'était pas exactement conforme à la chrétienté.
Merci Adrien pour cette découverte. Nous allons à présent marquer une courte pause musicale. Nous revenons dans un court moment. Maintenant, place à Lafayette de Charlie Lee Couture.
Soleil éclatant comme la Fayette, on va s'aimer le cœur battant comme la Fayette. sur un grand bateau volant comme Lafayette. Je traverserai l'océan comme Lafayette. Je serai là pour te tenir entre mes bras. Et toute la nuit, on dansera jusqu'au matin quand le coq chantera. Oui, toute la nuit, on dansera jusqu'au matin quand le coq chantera. Que nous entraîne à Lafayette. On a des joies puis des peines à Lafayette. Faut pas que tu t'inquiètes à Lafayette. Promis, je viendrai faire la fête à Lafayette.
Je reviendrai faire la fête à Lafayette.
Si la liberté est une reine, alors je veux être son roi. Pour elle, je mourrai au combat. Is it in France or in America?
À Mardi Gras, je serai là
pour te tenir entre mes bras.
Et toute la nuit,
on dansera jusqu'au matin quand le coq chantera.
Et toute la nuit, on dansera jusqu'au matin quand le coq chantera. On dansera jusqu'au matin quand le coq chantera. Et toute la nuit, ouais, on dansera. Ouais.
De retour au studio 231 de l'INA, vous venez d'écouter Lafayette de Charlélie Couture, de l'album éponyme. Retour à notre émission Aux Portes du Monde qui a commencé depuis 10h05. Maintenant, place à Sarah qui s'entretient avec nos invités Cécile Vidal et Bertrand Dical.
Voilà, merci beaucoup Clément et merci Adrien pour ta chronique sur le vaudou. Plusieurs thèmes me viennent en tête après cette chronique et j'aimerais commencer par le thème de la pratique du vaudou avec vous, Cécile Vidal, si vous me le permettez. Assez rapidement, si on le peut, parce que je vois que le temps file. Comment le vaudou a-t-il réussi à survivre pendant la période de l'esclavage? N'y avait-il pas un syncrétisme religieux qui se mettait en place, qui menaçait cette pratique du vaudou par les esclaves africains dès leur arrivée en Louisiane?
Alors la pratique du vaudou, elle est associée en effet à l'arrivée des réfugiés domingois en 1809. Cette arrivée de 10 000 personnes, dont un tiers de personnes mises en esclavage. Donc c'est un phénomène tardif. C'est après la période française, après la période espagnole, à un moment donné où par ailleurs, certes, la traite internationale a été abolie, mais va passer par la Nouvelle-Orléans 1 million d'esclaves qui sont amenés de la côte est des États-Unis, de Virginie, de Caroline du Sud, et qui sont transportés à la Nouvelle-Orléans pour être vendus dans en Louisiane, dans le Mississippi, dans tous les États du Deep South, là où on fait du coton, et qui vont contribuer en fait à diversifier les origines des esclaves. Et donc en Louisiane, on a des esclaves francophones, on a des esclaves anglophones, on a des esclaves qui sont venus de Saint-Domingue, mais on a des esclaves qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, des esclaves nouvellement arrivés des États, etc. Donc en fait, cette influence domingoise, c'est une goutte d'eau par rapport à une démographie bien plus complexe parmi les esclaves. Et ce qu'on voit au XIXe siècle, un processus qui a commencé auparavant, c'est plutôt une christianisation et une appropriation de la religion chrétienne par les esclaves. C'est pas le même christianisme que celui des maîtres, des colons et le développement d'églises noires autonomes dans lesquelles les esclaves et les affranchis, descendants d'affranchis, peuvent exprimer leur propre spiritualité, recréer des relations de solidarité, s'affirmer de la sorte. Et ça, c'est vraiment extrêmement important.
D'accord, merci. Et aujourd'hui, les traces de toutes ces créations, de tout ce...
C'est... Pour moi, c'est vraiment quelque chose de touristique. La mise en avant de Marie Laveau du Vaudou, on n'est pas du tout dans la situation d'Haïti ou du Brésil où on a encore des pratiques en fait du Vaudou, même si le Vaudou a été une religion persécutée pendant très longtemps en Haïti. Au Brésil, c'est pareil. Il reste des choses, il reste du candomblé, des pratiques de la sorte. C'est pas du tout le cas en Louisiane à l'heure actuelle.
D'accord, bah merci beaucoup. Adrien, tu veux...
Moi, du coup, la question, ce serait donc que la mise en avant du vaudou, selon vous, en Louisiane, ce serait pour idéaliser la région d'une certaine manière, donc.
Ça fait partie de la présentation touristique de la Nouvelle-Orléans, absolument. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des phénomènes intéressants de développement de culture propre aux esclaves, de spiritualité propre aux esclaves et aux affranchis et descendants d'affranchis. Hein. Mais voilà, c'est plus... je dirais que ça ne joue pas du tout le même rôle que dans d'autres sociétés esclavagistes où il n'y a pas justement ces flux très complexe de populations déportées qui, avec des origines très diverses et variées.
Ce qu'il y a de particulier avec le vaudou à la Nouvelle-Orléans, c'est le personnage de Baron Samedi, qui est un personnage pop. Et dans la culture pop américaine, ce personnage... alors on le voit bien, ce Loa en costume occidental, en costume européen de cérémonie, avec un chapeau haute forme, des lunettes de soleil dont un verre est cassé, etc. C'est un personnage pop, c'est une icône pop. Et quand l'industrie culturelle, qu'elle soit le cinéma avec Walt Disney, que soit la fabrication de posters, que soit le tatouage, que soit l'industrie du poster pour les chambres d'adolescents, quand on a un personnage comme ça qui arrive à fédérer tout un tas d'imaginaires en même temps avec un petit parfum de sorcellerie, c'est extraordinaire. Et ce personnage de Baron Samedi, on le retrouve dans énormément de cultures avec paradoxalement le même usage qu'à la Nouvelle-Orléans. Et par exemple, regardez ce qui est devenu Baron Samedi. Il y a un joli livre qui a été fait là-dessus chez les Hells Angels. C'est-à-dire que le mouvement Hells Angels s'est approprié Baron Samedi sans aucune raison et solution de continuité culturelle et historique.
D'accord, merci beaucoup. Je me permets de vous poser une dernière question, Bertrand Dical. Tout à l'heure, vous avez fait référence à un corpus en Louisiane qui regroupe énormément de sources en langue créole, qui avait un but bien particulier. Mais les dispositifs mis en place aujourd'hui, notamment le CODOFIL, donc, c'est-à-dire le Conseil pour le développement du français en Louisiane, les programmes d'immersion française, la reconnaissance du français comme langue officielle selon certains contextes ou encore certaines initiatives culturelles, est-ce que c'est assez efficace pour préserver les dialectes francophones qui existent encore en Louisiane aujourd'hui ?
Alors, ce qui se passe avec le français en Louisiane, c'est effectivement extraordinairement complexe. Il y a plusieurs langues créoles et plusieurs sources de langue créole. Il y a de la créolisation du français comme partout ailleurs, puisque les maîtres étaient de langue française et ils avaient des personnes esclavagisées et ils ont d'une certaine façon imposé une langue créole. Il y a la langue des Cajuns qui est une langue qui s'est aussi transmise à leur environnement dans les bayous, donc des populations natives américaines, des populations amérindiennes et des populations descendantes d'esclaves. Et puis il y a le français et tous les gens qui ont voyagé en Louisiane savent que très souvent le français des francophones et encore il y a quelques dizaines d'années, difficile à comprendre pour un français natif, puisque c'était un français transmis de manière orale, enfin dans des conditions extrêmement complexes. Donc, que la francophonie fasse des efforts pour préserver cette langue, oui, mais de manière générale, quand on fait des efforts publics et subventionnés pour défendre une langue, c'est qu'elle va très 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 mal et que l'arrêt de mort arrive. Donc, effectivement, nous, Français, on a une espèce de nostalgie d'une Louisiane francophone, mais c'est une survivance du temps et qui finira certainement un jour ou l'autre par s'effacer.
Ben, merci beaucoup Cécile Vidal, merci beaucoup Bertrand Dical. Je repasse la main à Clément pour clôturer cette émission.
Tout à fait, nous devons malheureusement mettre un terme à notre périple, nous espérons que le voyage vous a plu. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés durant cette heure. Merci à vous Cécile Vidal et Bertrand Dical d'avoir accepté notre invitation. Merci à Charles-Élie Couture pour ses chansons Maison Soleil Levant, Lafayette et Les Pionniers provenant de l'album Lafayette, édité par Flying Boat. Je tiens à remercier également Sarah Houplon et Adrien Davigny, sans oublier nos ingé-sons, Nel Fuseau, Titouan Métier et Anna Akras pour tout leur travail. C'était Clément Ancelin pour votre émission Aux Portes du Monde. On se retrouve dans quelques instants pour notre interview. Bonne journée.